travers ce que je vais partager avec vous, j'ai cette conviction qu'il y a là un véritable message de Dieu pour votre vie, quelque chose que le Seigneur veut réaliser en nous. Et si ces choses se réalisent dans votre vie, c'est vraiment pour aller plus loin. Alors nous allons aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, donc dans le cinquième livre du Nouveau Testament. Actes 17, nous sommes à Thessalonique. Verset 1er, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume et pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, alléluia. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'à une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ces gens qui ont bouleversé le monde. La déclaration qui a été faite ce jour-là a dramatisé la situation, l'a amplifiée, je dirais peut-être l'a précédée. Quand ils ont déclaré ça, ces personnes, ils voulaient créer l'émoi, le trouble parmi ceux qui entendraient cette parole. Mais cette parole, sans le savoir eux-mêmes, était une parole prophétique. Parce que quelques années plus tard, c'est vrai que ces gens, par l'évangile qu'ils annonçaient, allaient véritablement bouleverser le monde. Et cet évangile, depuis 2000 ans, n'arrête pas, ne cesse pas d'agir dans le monde entier. Partout Jésus-Christ est prêché et partout l'évangile bouleverse le monde. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais ce que je voudrais voir avec vous cet après-midi, c'est cette expression « ces gens ». Ces gens, ces hommes ont bouleversé le monde. Bien sûr, ceux qui ont déclaré cela ne savaient pas que c'était pas, non point par leur propre force, par leur piété qu'ils ont fait ces choses, mais par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions remplir une mission extraordinaire, être les témoins de Jésus dans ce monde pour bouleverser ce monde. Mais pour que ces gens-là puissent bouleverser le monde comme ils l'ont fait, il a fallu que le Saint-Esprit agisse dans leur vie et agisse par leur vie. Et nous allons voir particulièrement que c'est à travers deux choses que le Saint-Esprit a transformé ces quelques disciples d'une obscure secte juive en apôtres de l'évangile de Jésus dans le monde entier. Deux choses complémentaires l'une de l'autre. Tout d'abord des ruptures. Nous allons le voir, pour que ces hommes deviennent des apôtres, ils ont dû passer par des ruptures. Des ruptures par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs traditions, leurs habitudes, leur culture, des ruptures par rapport à leur environnement. Et ces ruptures ont permis des sauts, non pas des sauts de puce, mais des bons en avant. Quand ils ont accepté de passer par les ruptures que le Saint-Esprit attendait d'eux, ils ont permis au Saint-Esprit comme de les projeter en avant dans son œuvre. Si nous voulons vivre des sauts dans notre foi ou dans notre service, nous devons tout d'abord laisser le Seigneur rompre des choses en nous. Et c'est ce que je veux commencer encore par affirmer, pour que nous puissions accomplir son œuvre, le Saint-Esprit doit provoquer des ruptures en nous. Je parlais de ces disciples qui sont devenus des apôtres, mais pour devenir des apôtres, ils sont passés par ces ruptures. Qui étaient ces hommes au début? Pour la plupart, surtout si je fais référence aux disciples de Jésus, ils étaient des campagnards. des pêcheurs du lac de Galilée qui connaissaient peu de choses du monde extérieur. Oh, je pourrais en prendre un autre, ce fameux Saul de Tarse. Alors lui, c'était l'opposé. C'était un légaliste, un violent, quelqu'un qui était complètement captif de ses traditions, de sa religion pour laquelle il avait un zèle excessif. Et Jésus a choisi de prendre des hommes comme eux et de les emmener avec lui dans l'histoire, dans l'aventure la plus extraordinaire qu'ait connue l'humanité, devenir des témoins de sa parole, des témoins de son nom, non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, réfléchissons au parcours que ces hommes ont traversé pour entrer dans la vision du Seigneur. Qu'est-ce que cela leur a demandé? Ça leur a demandé de quitter leur campagne pour sillonner les fameuses routes romaines, les voies maritimes de tout l'Empire romain et aller même au-delà. Ils sont passés de Capernaum, Bethesda, quelques petits villages de pêcheurs sur les bords du lac de Galilée, pour aller jusqu'à Éphèse, jusqu'à Athènes, jusqu'à Rome. Ils ont accepté d'être extraits de leur milieu culturel, familial, religieux, traditionnel, pour aller se confronter avec des populations différentes, avec des langages différents, des cultures différentes, des religions différentes. Eux qui n'avaient connu que peu de choses, le Seigneur les a envoyés face à des consuls, des gouverneurs, des rois et même l'empereur de Rome. Pouvons-nous réfléchir un instant à tout le travail qui a dû s'accomplir dans le cœur de ces hommes pour passer de la Galilée jusqu'à Rome? Et ils ont dû connaître ces ruptures afin d'accomplir l'œuvre de Jésus-Christ et devenir nous-mêmes de véritables apôtres de Christ. Il est indispensable que nous passions par des ruptures afin de porter le témoignage de Jésus-Christ. Et quand je parle de rupture, je ne suis pas en train de parler ici simplement de quelques transformations, d'évolution progressive, mais bien de ruptures parfois brusques, soudaines, au point même de devenir des déchirures. Voyez-vous, je ne parle pas ici de péché, mais je parle de toutes ces choses qui font notre identité, notre famille peut-être, nos habitudes, notre culture même, notre culture évangélique. Il y a donc des choses que le Seigneur doit arracher de nous. Et il y a des choses desquelles le Seigneur nous arrache. Jusqu'à même ce que nous perdions, notre identité, nos repères, tout ce qui faisait notre vie par le passé, tout ça, le Seigneur l'a pris. Et ce sont de véritables déchirures par moments. Je pourrais parler de transplantation géographique, spatiale. Et beaucoup au milieu de nous, parmi nos frères et sœurs venant d'autres nations, comme parmi beaucoup d'étudiants, de jeunes travailleurs qui sont là, vous êtes venus. Et vous savez ce que ça veut dire qu'être comme transplanté, un arbre transplanté. Vous aviez vos racines quelque part et le Seigneur vous a déraciné, parfois même contre votre volonté, et il vous a planté dans cette ville. Des fois contre votre gré. Mais ça peut être aussi une transplantation sociale, une transplantation culturelle. Afin de devenir ses apôtres, le Saint-Esprit veut nous amener à rompre avec tout ce qui était ancré en nous. Ces ruptures sont d'autant plus difficiles que parfois le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont comme choquantes par rapport à tout ce que nous pensions être la vérité, par rapport à tous nos acquis. Je veux prendre un exemple, celui de Pierre, dans Acte 10. Pierre est sur la terrasse d'un certain Simon, corroyeur de son état dans la ville de Joppé. Il est midi, Pierre a faim, et voilà que le Seigneur se révèle à lui à travers la vision de la nappe, vous connaissez cela. Et le Seigneur lui montre un ensemble, une multitude d'animaux, qui d'après la loi juive étaient pour certains purs et d'autres impurs. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, mange, tue et mange. Et Pierre répondra, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, rien qui ne soit pas cachère. Je me suis toujours étonné que Pierre réponde cela alors qu'il habitait chez un corroyeur. Et pour un juif, habiter chez un corroyeur, ça n'a rien de cachère. Mais voyez-vous, des fois, nous sommes très sélectifs dans tout ce que nous pensons être sain ou pas sain, pur ou pas pur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, tue et mange. Par trois fois, le Seigneur a dû renvoyer cette vision pour laisser Pierre dans un état de réflexion. Mais pourquoi Jésus avait-il entrepris cela? Parce qu'à l'instant même, il y avait des hommes envoyés par un officier romain, Corneille, qui s'approchaient de la maison de Simon pour aller chercher Pierre, pour l'amener chez Corneille, afin qu'il puisse témoigner de l'Évangile. Mais pour un juif, ce n'était pas permis de rentrer chez un païen. Alors le Seigneur avait préparé le cœur de Pierre. Il l'avait amené dans une véritable rupture. Une rupture par rapport à tout ce qu'il pensait être vrai, par rapport à tout ce qu'il pensait être la sainteté, ce qui était pur et pas pur, souillé et pas souillé. Et quand il rentre chez Corneille, il lui dira ceci, « Vois-tu, Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé ou comme impur. » Je dis que Jopé fut une véritable rupture pour l'apôtre Pierre. Mais comme Pierre s'appelait Pierre et Jésus ne s'était pas trompé en le nommant ainsi, il a dû passer par bien d'autres ruptures. Notre caractère est souvent en opposition à la volonté du Saint-Esprit. Et tant que nous ne permettons pas au Seigneur d'agir jusqu'au bout de ce qu'il veut en nous, eh bien nous ne pourrons pas avancer plus loin. Je voudrais prendre un exemple complètement opposé. Saul de Tarse. Saul de Tarse, il dit de lui, dans Galates 1:4, qu'il était zélé excessivement pour les traditions de ses pères. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Oh, j'étais de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, irréprochable au regard de la loi et persécuteur de l'Église. » Et voilà que cet homme, rempli de haine, de violence à l'égard des chrétiens, va connaître une rupture foudroyante, radicale, complète, définitive sur le chemin de Damas. Lorsque Jésus se révélera à lui dans cette lumière extraordinaire qui le rendra aveugle et qui renversera tout dans sa vie. Le chemin de Damas fut pour Saul un chemin de rupture. Avons-nous permis au Seigneur de nous rompre? Avons-nous permis au Seigneur de nous transplanter? Je voudrais prendre un autre exemple, une autre image tirée du livre de Jérémie au chapitre 48, verset 11. Jérémie 48, 11, si vous lisez avec moi dans vos Bibles, où il est parlé de Moab, peuple voisin d'Israël. Et Dieu lui dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Moab est donc comparé à un vin. Le vin était laissé à l'époque dans des vases pour fermenter, bien sûr, et puis pour vieillir et prendre de la maturité, du goût. Mais il était nécessaire de transvaser le vin, de le changer d'un vase dans un autre, afin qu'il soit purifié de sa lie, de son moût. Alors, vous n'êtes peut-être pas un expert en vin, mais voyez-vous, quand le vin vieillit, quand il décante, en quelque sorte, il y a de la lie, tout ce qui est des impuretés qui s'accumulent au fond du vase, au fond de la bouteille. Et ces choses donnent un goût au vin. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est de transvaser le vin dans un autre vase en filtrant les impuretés. Et Dieu dit à Moab, tu n'as pas été transvasé. Et ton goût initial t'est resté. Ton odeur t'est restée. À travers cette image, nous comprenons que Dieu permet et veut même que nous soyons transvasés afin que notre odeur spirituelle change, afin que notre goût change. Tant que nous restons tranquilles, comme il dit, tranquilles depuis ta jeunesse, au même endroit, dans le même état d'esprit, dans la même culture, sans qu'il n'y ait jamais rien qui se passe en nous, nous gardons tout ce que nous avons été jusque-là, mais nous ne prenons pas une nouvelle odeur. Nous ne prenons pas un nouveau goût, un nouveau parfum, celui que le divin vigneron voudrait nous donner. Le Seigneur permet des transvasements dans nos vies. Et je sais que plusieurs au milieu de nous savent ce que c'est qu'un transvasement, savent ce que c'est que d'être sortis de ce milieu dans lequel nous étions si bien pour nous retrouver seuls, mais aussi pour être comme purifiés de tout ce qui encombrait notre vie, de tout ce qui nous avait donné un goût, mais qui n'est pas celui que Dieu veut nous donner. Et si tu es ici, c'est aussi parce que le Seigneur veut te transvaser. Alors que cette année 2011 soit une année de rupture pour nous. Et c'est vrai, pardonnez-moi, nous sommes très loin de bonnes paroles de la nouvelle année, de bénédiction, de prospérité, de bonnes résolutions. Mais je crois que les ruptures divines sont les meilleures choses qui puissent nous arriver. Parce qu'elles nous rendront capables de rentrer dans l'œuvre de Dieu. Chaque fois que nous acceptons une rupture de Dieu dans notre vie, Dieu suscitera par derrière un saut en avant, un bond en avant. Nous allons voir différents types de bonds en avant que nous trouvons dans le livre des Actes. Le livre des Actes est le livre qui nous montre que l'Église a grandi, non pas progressivement, non pas avec une stratégie, avec des plans bien établis, mais elle a grandi de bond en bond. Des bonds commandés par le Saint-Esprit, actionnés par le Saint-Esprit. Des bonds spirituels, des bonds géographiques et même des bonds dans la société. Le Seigneur veut nous faire des bonds. Pourquoi veut-il faire des bons? Parce qu'il veut nous amener là où nous n'avons pas prévu d'aller. Il est capable de nous amener bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser, demander, imaginer. Nous le voyons avec les apôtres. La plupart du temps, ils étaient en retard par rapport à l'évolution de l'Évangile. Ils étaient encore à Jérusalem que l'Évangile était déjà en Samarie. Ils étaient encore à Jérusalem alors que l'Évangile était déjà à Antioche. Et le Seigneur les a pris pour les envoyer toujours plus loin. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. N'est-ce pas aussi ce que Jésus semblait nous dire lorsqu'il disait à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, oui, à Judée. » Oh, ça c'est un petit saut de puce. En Samarie, là c'est un saut culturel. Parce que vous savez que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors là, ça dépassait tout leur raisonnement. Parce que si pour nous, atteindre les extrémités de la terre, c'est aujourd'hui monter dans un gros A380 et puis on dort et le lendemain matin, on est sous les tropiques. À l'époque, nous le comprenons bien, la terre était beaucoup plus grande. Elle était beaucoup plus vaste à l'échelle humaine parce que les temps de transport étaient multipliés en semaines et en mois. Et pour eux, les extrémités de la terre, c'était comme des pôles inatteignables, des terres si lointaines, des contrées si inconnues. Mais c'est là que Dieu voulait les projeter. Dieu veut nous faire des sauts. Le premier des bons que Dieu veut nous faire, nous le trouvons au tout début des Actes des Apôtres. C'est un bond de Pâques à Pentecôte. En 50 jours, Dieu a fait faire un bond extraordinaire à l'Église. Quand nous voyons les disciples à Pâques, ce sont des hommes qui n'ont pas compris ce qui se passe devant eux. Ce sont des hommes qui s'enferment dans une pièce à double tour parce qu'ils ont peur de l'extérieur. Et à Pentecôte, lorsque l'Esprit-Saint descend sur eux, nous voyons qu'ils n'ont pas peur de louer tellement fort le Seigneur que les foules se rassemblent autour de la maison pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous voyons Pierre se lever, rempli du Saint-Esprit, et prêcher Jésus-Christ, cet homme de Nazareth, que Dieu a élevé à sa droite. Il le prêche avec foi, il le prêche avec autorité, et le cœur de ceux qui l'entendent sont vivement touchés. Que s'était-il passé? Ils ont fait un bond. En un instant, ils ont fait un bond. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, quand la puissance de l'Esprit est venue sur eux, quand ces langues de feu se sont posées sur eux, alors ils ont complètement changé. Fini la peur, fini la crainte. Et ils ont fait ce bond dans la puissance de la Pentecôte. Le premier des bonds que nous avons besoin de faire, c'est ce bond de l'Esprit, ce bond spirituel, ce bond que Dieu veut nous donner. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, voilà une priorité pour toi. Demander au Seigneur de te permettre de faire ce bond cette année qui changera ta vie, qui changera ton témoignage et ton service. Et si tu en as besoin, demande au Seigneur de te renouveler. Seigneur, regarde, maintenant, je vais de moins en moins loin. Dans l'Esprit, j'ai l'impression, Seigneur, je n'arrive plus à décoller. Oh Seigneur, redonne-moi cette puissance parce que je veux encore aller plus loin pour toi. Alléluia. Et puis il existe d'autres bons. Des bons qui sont peut-être encore plus difficiles à accomplir. Il y a par exemple le bon culturel. C'est un bon qui nous fait passer de Jérusalem à Antioche. L'Église a démarré à Jérusalem, mais elle est devenue missionnaire à Antioche. Il arrive un moment où Les chefs du temple ont dit aux disciples, « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Merveilleux, le nom de Jésus était répandu à Jérusalem et nous le voulons encore aujourd'hui pour cette ville. Mais attention, les projets de Dieu ne s'arrêtaient pas à Jérusalem. Jésus avait des projets pour les extrémités de la terre. Alors à un moment, il va permettre une persécution. Après le martyr d'Étienne, il va y avoir une persécution. Il va prendre des disciples et il va les envoyer. Certains vont aller à Chypre et d'autres vont aller dans cette grande ville d'Antioche de Syrie. Et là, il nous est dit que certains vont commencer à témoigner de Jésus auprès des païens, auprès des gentils. Et dans cette église, dans cette ville d'Antioche, c'est une église à la fois mélangeant les païens, les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive vont se retrouver ensemble. Et cette église deviendra une église missionnaire. Et pour beaucoup, c'était une rupture. Une rupture par rapport à tout ce qu'ils pensaient être la vérité, par rapport à tout ce qu'on leur avait inculqué jusque-là. Rentrer dans une nouvelle dimension de notre culture chrétienne. Le Seigneur veut faire cela aussi. Parce que souvent notre culture chrétienne, même notre culture évangélique et pentecôtiste, ce que nous pensons être la vérité, être le dogme, être la norme, nous empêche de rentrer pleinement dans l'œuvre missionnaire. Et nous devons apprendre à quitter Jérusalem pour aller à Antioche. Ce que je remarque, c'est que Dieu a utilisé des disciples. Les apôtres étaient toujours à Jérusalem. Quand Philippe annonçait l'évangile à Samarie, les apôtres étaient à Jérusalem. Quand Paul et Barnabas commençaient à prêcher à Antioche, les apôtres étaient encore à Jérusalem. Dieu merci, ils seront ensuite rattrapés le temps perdu pour passer à la tête de l'œuvre. Je voudrais aussi vous parler de sceaux qui nous ouvrent le monde. Nous sommes dans Actes 16, si vous voulez relire ces quelques versets, Actes 16, versets 6 à 10, je vous résume le passage. Nous sommes à la fin, au milieu, pardon, du second voyage missionnaire de Paul. Barnabas est parti à Chypre, Paul a pris avec lui Silas, il a trouvé Timothée et il a visité les églises qu'il avait fondées lors du premier voyage en Galatie, il les a exhortés, il les a fortifiés, il les a enseignés, il les a structurés. Et maintenant, il dit au Seigneur, mais je veux accomplir ma vocation apostolique, je veux aller dans d'autres régions, je veux implanter de nouvelles églises. Paul est né en Turquie aujourd'hui, dans une des provinces du sud de la Turquie, la Cilicie. Et lorsqu'il va chercher une direction pour son ministère, il va aller un peu dans les régions qu'il connaît. Et ce texte d'Actes 16 nous dit qu'il va aller un peu dans toutes ces provinces autour de sa région natale, de la Cilicie, de la Galatie. Il va aller tenter du côté d'Éphèse en Asie, mais le Seigneur l'empêche. Il va aller au nord et là, Dieu ne veut pas non plus qu'il y aille. Mais voyez-vous, chaque fois que Dieu ferme des portes, il nous amène vers sa porte. Chaque fois que Dieu dit non, c'est parce qu'il nous fait rapprocher de son oui. Et alors que Paul cherchait une direction, Dieu va l'amener à un endroit qu'il n'avait pas prévu. Il va l'amener sur la Méditerranée, sur un port de la Méditerranée, le port de Troas. Et là, à Troas, il va avoir une vision. La vision d'un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Un Macédonien, c'est un Européen. C'est un Européen. Et là, à Troas, il va rentrer dans une nouvelle dimension de ce ministère. Pour l'instant, son ministère avait été régional. C'est là où il avait ses habitudes, là où il connaissait la géographie, il connaissait les cultures, il connaissait les langues, il n'était pas perdu, c'était ses provinces. Et voilà que Dieu l'a amené à Troas parce qu'il veut l'amener dans une dimension qu'il ne connaissait pas. Tu vas passer de l'autre côté. Tu vas rentrer en Europe. Et à partir de ce moment-là, le ministère de Paul va complètement changer parce qu'il va comprendre que Dieu lui ouvre le monde. Dieu lui a fait faire à ce moment-là à Troas un bond géographique extraordinaire. Et il dira plus tard dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 19, qu'il a prêché l'Évangile jusqu'en Illyrie. C'est quoi l'Illyrie? C'est la côte croate aujourd'hui, la Dalmatie, où il fait si bon passer des vacances, paraît-il. Mais voyez-vous, l'Illyrie, ce n'est pas n'importe quoi, parce que c'était le premier des pays occidentaux où l'on parlait latin. Et en arrivant en Illyrie, il s'est dit, mais maintenant, il y a un nouveau monde devant moi. Et alors, il a voulu écrire aux Romains pour leur dire, je viendrai à Rome. Et il leur dit aussi, voyez-vous, j'ai envie d'aller jusqu'en Espagne. Le monde s'ouvrait devant lui, un saut géographique. Le Seigneur est capable de produire des bonds comme cela. Le dernier bond dont je voudrais parler, c'est un bond dans la société. Paul était en prison, à Césarée. Quelle espérance de faire des bons quand on est en prison, sinon que de faire du surplace. Mais voilà que Paul restant en prison, Dieu va lui ouvrir des portes auprès d'hommes qu'il n'aurait jamais pu atteindre sinon. Dieu va lui permettre de témoigner de l'évangile auprès des gouverneurs romains. Félix, qui va le garder en prison pendant quelques années, espérant recevoir quelque argent de sa part. Festus, qui fera venir son beau-frère, le roi Agrippa, accompagné de son épouse, sa sœur, Bérénice. Et à ce moment-là, Paul pourra témoigner devant un roi. Dieu ne lui avait pas dit qu'il devrait être son témoin devant les nations et devant les rois. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Mais nous savons que Dieu voulait l'amener encore plus loin. Il l'a amené jusqu'à la cour de l'empereur de Rome. Il y a des bons spirituels, il y a des bons culturels, il y a des bons géographiques. Et Dieu est capable de nous faire faire des bons dans la société. Pensez à Joseph, au fond de sa prison, oublié de tout le monde depuis des années. Et en un instant, Dieu va le propulser jusqu'à la droite du Pharaon pour faire de lui son vizir, son premier ministre. Dieu est capable de nous ouvrir les portes de la société. Oh, que cette année 2011 soit pour nous une année de bon en avant, qu'elle soit pour l'Église, en France, pour notre Assemblée, mais aussi pour votre vie. Et Dieu est capable de nous faire faire des sauts spirituels, de faire faire un saut spirituel dans cette année. Il est capable de faire un saut géographique, de te faire faire un saut dans la société, un saut culturel. Je me réjouis aujourd'hui de ce que Dieu ouvre des portes dans des milieux que nous pensions fermés. Dieu ouvre les milieux sportifs et nous sommes heureux de voir tous ces footballeurs qui n'hésitent pas aujourd'hui à témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de ce que dans les médias, dans la culture, dans les affaires et même dans le monde politique, à l'étranger, mais même en France, Dieu commence à agir. Dieu est capable de nous ouvrir des portes. Dans cette ville de Paris qui nous semble comme fermée à double tour, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Savez-vous pourquoi? Jésus tient les clés. Il tient toutes les clés. Le Seigneur veut te faire faire des bons dans cette année. Mais pour boucler ce message, je vous rappellerai que pour nous faire faire des bons, nous devons accepter d'abord des ruptures. Des ruptures par rapport à tout ce qui nous empêche de bondir en avant. Des ruptures par rapport à des convictions, des acquis, par rapport à toutes sortes de cultures religieuses, de traditions. Le Seigneur est obligé de nous délester de ça pour que nous puissions bondir comme il le veut. Si le Seigneur est en train d'agir dans ta vie, tu dis, Seigneur, mais je suis perdu. Que veux-tu? Alors laisse-le faire, parce qu'il a quelque chose de préparé pour toi. Que cette année 2011 soit une année de rupture pour que tu puisses sauter encore plus loin, encore plus haut avec Jésus-Christ. Alléluia.